Je n'ai regardé qu'une topique du côté de la philosophie grecque par rapport au problème de l'un et du multiple. Nous allons tout de suite, sans regarder, sans poursuivre cette topique, regarder tout de suite le problème philosophique tel qu'il se pose aujourd'hui et tel que nous pouvons le poser au point de vue proprement philosophie première. Je vous ai déjà dit, et je crois que c'est important de se le rappeler, si on veut traiter le problème de l'un et du multiple au plan philosophique, il faudrait comprendre que ce problème de l'un et du multiple se pose à tous les niveaux de la philosophie. C'est la première constatation qu'on doit faire. Il se pose en philosophie humaine, le problème de l'unité, de la multiplicité des vertus, le fameux problème de la connexion des vertus, c'est un problème de l'un et du multiple. Le fameux problème d'Aristote, est-ce qu'il vaut mieux avoir un ami ou d'avoir beaucoup d'amis? C'est un problème de l'un et du multiple. On pourrait multiplier ça de diverses façons. Au point de vue artistique aussi, vaut-il mieux une production en série, la multiplicité? Vaut-il mieux chercher à toujours perfectionner un prototype? Et il y a deux attitudes différentes, l'aspect qualitatif dans lequel on veut réaliser les choses, ou au contraire l'aspect plus de la série, de la quantité. Et on voit tout de suite que l'aspect quantitatif est lié à la multiplicité. Et puis alors, au problème philosophie politique, la question du suffrage universel, vous comprenez, c'est des questions d'ordre politique ça. La question de la multiplicité, que représente cela? Qu'est-ce que ça représente au niveau politique? La fameuse question qu'Aristote se pose du nombre des citoyens dans la cité, du nombre des citoyens dans une université. Est-ce qu'à partir d'un certain nombre, est-ce que de fait on peut encore faire une chose? C'est la question de l'un et du multiple, mais dans les modalités différentes. C'est pour vous montrer que ce problème se situe à tous les niveaux. Je crois que ça c'est facile de le comprendre, alors je n'insiste pas. Nous allons tout de suite nous placer du côté philosophie première. Alors, pour la philosophie première, comprenons qu'il faut d'abord regarder toujours le langage. Il y a une première réflexion philosophique sur le langage. Voir que c'est du reste comme cela qu'Aristote lui-même pose le problème de l'un. Quand je dis « cet homme existe, Pierre existe, Pierre est un », quelle différence y a-t-il dans le langage de « Pierre est » et « Pierre est un » ? J'exprime la même réalité. C'est la même réalité. C'est Pierre dans son existence. Et quand je dis « un », qu'est-ce que j'ajoute de plus ? Il y a là donc un problème qui montre, est-ce que c'est tout simplement une tautologie de dire Pierre est un. Quand j'emploie le terme multiple en fonction de la multiplicité des individus, je suis en face du problème de l'individuation. Les individus sont multiples et ils sont un dans leur espèce. Vous voyez, je suis là encore en face d'un problème du langage. Le langage, alors on pourrait aller plus loin, le fameux problème de l'un et du multiple dans l'universel, dans l'attribution. Et la manière différente dont l'un et le multiple se trouvent dans l'attribution univoque et l'attribution analogique. Je n'insiste pas, nous l'avions vu hier, au cours de logique. Et c'est intéressant de voir que l'attribution n'est pas la même, et donc le problème de l'un et du multiple est différent dans le problème de l'univocité, de l'attribution dite univoque et de l'attribution analogique. Donc le problème du langage pose le problème de l'un et du multiple, ça c'est sûr. C'est pas la peine de chercher beaucoup, ça nous pose le problème de l'un et du multiple. Je ne peux pas quand même ramener l'affirmation « Pierre est un » uniquement à l'affirmation « Pierre existe ». Et pourtant, en disant que Pierre est un, je regarde l'existence actuelle de Pierre et j'affirme son existence unique. Je pourrais faire la même constatation à propos d'une œuvre d'art. Cette œuvre d'art a beaucoup de qualités, mais elle manque d'unité. Et dans le langage, jugement critique, elle manque d'unité. Qu'est-ce que ça veut dire quand je dis ça? Je ne dis pas ça pour une réalité existante. Je ne veux pas, en vous regardant, disant « Vous manquez d'unité dans votre existence. » C'est plus difficile. Dans votre vie, à ça je peux le dire, votre vie est quand même beaucoup trop dispersée et vous manquez d'unité dans votre vie. Vous avez beaucoup trop de choses que vous embrassez et vous manquez d'unité dans votre vie. Comment faites-vous l'unité en face de la multiplicité de vos occupations? On voit très bien ça, c'est le problème psychologique de l'un et du multiple. Donc dans le langage, nous voyons bien que constamment, ce problème de l'un et du multiple est présent. Mais nous ne pouvons pas, à partir de là, prendre le problème philosophique. Il faut revenir à l'expérience. À l'expérience simple de l'œuvre d'art et de moi-même. Je crois que c'est comme ça que je dois aborder le problème de l'un et du multiple. Le problème de l'œuvre d'art, je vous l'ai dit tout à l'heure, l'œuvre réclame l'unité. Alors, pourquoi une œuvre d'art réclame-t-elle l'unité? Vous allez dire, c'est l'exigence de la beauté. Pour qu'une œuvre soit belle, pour qu'une œuvre soit parfaite, pour qu'une œuvre soit réussie, il y a l'exigence de l'unité. C'est assez curieux du reste, parce que c'est peut-être là où ça se manifeste le plus immédiatement. Toute œuvre d'art implique une expression. Ça implique une expression, donc ça demande d'être déterminé. Et pour que la forme soit parfaite, la splendeur de la forme, qui est le problème de la beauté, réclame l'unité. Toute multiplicité dans une œuvre d'art, la multiplicité qui n'est pas ramenée à l'unité, une multiplicité qui est ramenée à l'unité fait la perfection de l'œuvre d'art. Une œuvre d'art n'est vraiment parfaite que quand elle implique une certaine multiplicité à l'état latent. Mais il faut que cette multiplicité soit ramenée à l'unité. Alors quand cette multiplicité est ramenée à l'unité, quand les opposés sont ramenés à l'unité, alors on touche quelque chose de particulièrement net, que la forme peut apparaître dans toute sa splendeur. Et l'unité de l'œuvre apparaît aussi très nettement. Il y a là la marque, si vous voulez, du génie. C'est dans l'unité que la marque du génie se montre, au-delà des oppositions, comme quelque chose qui est un dépassement de la forme. C'est pas uniquement la forme. La plénitude de la forme va impliquer cette unité. Et quand la forme est trop, j'allais dire, saisie par la matière, trop encombrée par la matière, quand la forme n'arrive pas à s'expliciter suffisamment, à se dire suffisamment, alors je retombe dans la multiplicité. Autrement dit, je retrouve, quand il s'agit de l'œuvre d'art, le problème de l'un et du multiple au niveau de la forme et de la matière. C'est la première constatation, je crois, que nous devons faire, parce que c'est la plus explicite. L'œuvre d'art, vous allez me dire, je ne suis pas encore en métaphysique. C'est sûr, je ne suis pas encore en métaphysique. Mais c'est une expérience que je peux faire, étant donné que je sais que l'œuvre d'art implique cette alliance de la forme et de la matière. Et donc, je vois que l'unité est du côté de la victoire de la forme à l'égard de la matière. Plus la forme est victorieuse de la matière, plus elle est une et plus elle possède son unité. Plus la matière, au contraire, absorbe la forme, plus je suis en face d'une multiplicité, plus je suis en face d'une incohérence. Je suis en face quelque chose d'anarchique même. Et au fond, c'est là où on voit bien comment le problème de l'unité est lié d'abord à la forme. Dans l'œuvre d'art, c'est net. Et c'est ça qui est l'achèvement. Et plus la forme est victorieuse, plus elle est une. La forme réclame l'unité. La matière demande non pas la multiplicité, mais la matière est à l'aise avec la multiplicité. Elle est en connaturalité avec la multiplicité. Ça ne la gêne pas. Tandis que la forme, ça la gêne. La forme demande un dépassement à l'égard de la multiplicité. Lorsqu'il s'agit du monde physique, dans le devenir, je vois que toujours le devenir implique les contraires et donc implique la multiplicité. Dans le devenir, le multiple est premier, puisque c'est les contraires, et le sujet qui est capable des contraires. Le multiple est premier, ce n'est pas l'unité qui est première. L'unité sera quand justement le mouvement sera terminé, le repos dans le lieu, dans la mesure où il existe. Donc, là encore, je vois combien la matière est source de multiplicité dans le devenir, et comment le devenir implique toujours une tension dans la contrariété, dans les oppositions, et que cette tension dans les oppositions qui existe au niveau du devenir demande d'être dépassée. Mais le pur mouvement est toujours dans la multiplicité. Il n'y a pas d'unité dans le devenir. C'est très curieux, ça. Il n'y a pas d'unité dans le devenir. Le devenir est essentiellement multiple. Vous voyez, l'œuvre d'art, victoire du devenir, dans la mesure où la forme arrive à cette unité. Il y a une certaine victoire du devenir. L'œuvre d'art se fait par le travail et donc dans le devenir, mais il y a une certaine victoire. De même, lorsqu'il s'agit du vivant, le vivant possède une autonomie par son âme qui est au-delà du devenir, et il possède une unité. Le vivant réclame une unité, alors que le devenir ne l'a pas, et c'est peut-être pour ça que le vivant peut se reposer, puisque seul le vivant se repose. Alors il y a là un problème aussi très curieux, c'est que dans l'ordre du devenir, c'est la vie qui me met en présence d'une unité au-delà du devenir, dans l'immanence même de l'âme. L'âme, en tant que principe de vie, réclame l'unité, elle réclame l'autonomie. Si je regarde maintenant au niveau métaphysique, et je pourrais dire qu'à cause du corps, je suis en présence de la multiplicité des opérations. Ça, c'est bien évident. Le corps implique la multiplicité des opérations. Donc, je retrouve problème de l'un et du multiple, mais le problème de l'âme apparaît source d'unité. Alors, je prends la forme apparaît source de l'unité, l'âme apparaît source de l'unité. Voilà les deux sources d'unité que je vois. Le point de vue... Et c'est toujours la matière qui est, elle, source de la multiplicité. Je crois que ça, nous pouvons le saisir assez facilement. Ce n'est pas bien difficile. C'est assez facile de comprendre cela. Quand je suis au niveau métaphysique, et vous voyez que là, je n'ai pas besoin d'induction. Je saisis ça directement. C'est aussi très important de comprendre ça. Je saisis directement l'exigence de l'unité de l'œuvre, le point de vue de la multiplicité provenant de la matière, l'exigence de l'unité dans le vivant, provenant de son âme, et la multiplicité des opérations provenant du corps. Pas besoin d'induction. Je suis donc en présence de quelque chose qui se manifeste directement, et que je saisis comme une manifestation de la réalité. au niveau métaphysique, le problème de l'un et du multiple apparaît aussi immédiatement dans le jugement d'existence. Tout jugement d'existence qui dit ceci est implique l'unité. Le verbe être implique l'unité. Ceci est. Alors l'unité là provient d'où ? Elle provient d'une réalité existante en elle-même, ayant une certaine séparation à l'égard des autres et une certaine unité en soi grâce à l'acte d'être. Grâce au fait d'exister, le fait d'exister apporte immédiatement une exigence d'unité. Et quand, de fait, cette réalité qui existe pour une raison ou une autre est brisée, il n'y a plus cette unité. Allons plus loin, regardons l'induction de la substance et des accidents. Et nous avons saisi la substance comme un principe. L'apanage du principe, c'est d'impliquer une simplicité et donc une certaine unité. Tout principe réclame une unité. Et donc, la substance comme l'âme, mais pas de la même manière. La substance, d'une manière plus radicale, réclame une indivision. Tout principe est source d'unité. Et la substance est source d'unité. Et les accidents apparaissent immédiatement comme la multiplicité. Il ne peut pas y avoir d'unité dans l'accident. Puisque l'accident est quelque chose de relatif. Qu'il s'agisse de la qualité, de la quantité, de la relation, c'est quelque chose qui est relatif. Relatif à quelque chose de premier. Et donc, il n'y a pas d'unité dans l'accident. L'accident, par définition, est multiple. Alors que la substance, elle, apparaît comme impliquant une unité. Parce qu'elle est source de ce qui est. Parce qu'elle est principe de ce qui est. Parce qu'elle est cause, selon la forme de ce qui est. Je vois donc que dans la division de l'être en substance et accident, je m'aperçois tout de suite que la multiplicité est accidentelle. On va se poser la question, y a-t-il une multiplicité substantielle ? Ça, c'est autre chose. Mais je m'aperçois ça en premier lieu. C'est toujours très important de saisir en premier lieu, à partir de l'induction de la substance et de la distinction et de la division de la substance et des accidents, de m'apercevoir que tout de suite, la substance implique une unité et les accidents sont dans la multiplicité. Je peux faire la même constatation du côté de l'acte et de la puissance. Pas de la même façon, mais d'une autre manière. Je vois que l'acte, puisqu'il est fin, puisqu'il est quelque chose d'ultime, implique aussi l'indivision. Et l'implique d'une manière plus radicale encore que la substance. Pourquoi ? Parce que c'est ultime. Alors c'est encore plus séparé de tout le reste. La substance implique un principe d'autonomie, mais ne sépare pas directement. Tandis qu'au contraire, l'acte sépare. Et alors comme il sépare, il permet de mieux comprendre comment l'acte est source d'indivision pour celui qui possède cet acte. Et si je regarde maintenant les cinq modalités de l'acte, je m'aperçois aussi que ces cinq modalités de l'acte vont nous donner comme cinq modalités de l'un. L'un au niveau de l'acte d'être, l'un au niveau du bien, l'un au niveau du vrai, l'un au niveau de l'opération vitale. Alors ici, ça devient très difficile. Y a-t-il l'un au niveau du mouvement? Je viens de dire tout à l'heure qu'il n'y a pas d'unité dans le devenir. Alors là, je pose le problème. On essaiera de résoudre. Vous voyez, c'est intéressant de voir que partout il y a acte, il doit y avoir unité. Alors comment se fait-il que d'un côté, je peux dire pas d'unité dans le devenir? Le devenir est toujours multiple. Et pourtant, je dis que le mouvement est une modalité de l'acte. Si le mouvement est une modalité de l'acte, il implique donc l'unité. Alors, y a-t-il une double considération sur le mouvement? C'est là la question. Y a-t-il une considération du mouvement comme modalité de l'acte qui implique l'un? Y a-t-il une considération du mouvement qui, lui, est pris du côté de son conditionnement, des contraires et du sujet qui implique au contraire le multiple? Il faut au moins se poser la question pour vous comprendre que le problème de l'un du multiple est très complexe, c'est pas simple du tout. Je m'aperçois donc simplement cette petite enquête très simple qui récapitule un peu tout ce que nous avons dit, puisque le problème de l'un du multiple récapitule tout. Je n'aurais pas pu partir au point de départ, vous voyez. C'est là où on voit que c'est important d'avoir fait toute l'analyse avant. Si on a fait toute l'analyse de l'être avant, ça devient quelque chose de relativement simple. Je m'aperçois que là où il y a principe, ben, il y a nécessairement l'un. L'un est vraiment l'apanage de ce qui est premier. Et tout ce qui est second est relatif, et tout ce qui est second implique une multiplicité. Je m'aperçois tout de suite de ça. Et donc je m'aperçois dans tous les domaines que j'ai pu voir, le problème de l'un et du multiple. Alors, je me pose maintenant la question. Jusque-là, on a constaté, hein, jugement de constatation. Je ne suis pas encore au niveau scientifique. Hein. Je suis au niveau simplement de la constatation. J'ai vu qu'il y avait divers principes, et donc il y a diverses unités. Je vois au contraire que dès que je quitte le principe, je suis dans la relativité, je suis dans les accidents, je suis dans la potentialité. Et là, je découvre au contraire une source d'une très grande multiplicité. Alors, c'est à partir de maintenant qu'on va essayer d'entrer proprement dans l'analyse. Mais qu'est-ce que c'est que l'un? Il fallait d'abord constater l'existence de l'un et l'existence du multiple. Et je crois que là, nous pouvons tous être d'accord, c'est assez facile, hein. S'il y a des objections, du moins des questions, vous les écrivez et puis je vous le demanderai. Hein. Parce que je vais aller très vite sur la question de l'un du multiple. Je voudrais insister beaucoup sur la question de la personne. Sur la question de l'un du multiple, on peut aller assez vite. C'est une conséquence. Donc si vous avez compris les principes, vous allez comprendre tout de suite. Si vous n'avez pas compris les principes, la conséquence reste obscure. Mais la conséquence peut au moins vous aider de revenir à la source. C'est assez simple, il n'y a pas beaucoup de problèmes de l'un et du multiple au point de vue de la constatation et de l'existence de l'un et du multiple, dès que je vois qu'en effet. Mais vous voyez très bien que l'un se situe à des niveaux très différents. Et c'est ça que je voudrais que vous compreniez pour que nous voyons tout de suite que la notion de l'un m'apparaît tout de suite comme très analogique. Hein? Tous les niveaux que je vous ai cités tout à l'heure, hein? La question de je prends simplement la question du devenir, parce que ça me semble intéressant, la question donc du mouvement, au niveau physique. Au niveau physique, toujours, le mouvement est multiple. Pas d'unité dans le mouvement. Je suis dans une relativité absolue. Et le mouvement est une relativité absolue. Et c'est vrai, quand on regarde le mouvement physique, on est dans une relativité absolue. Il y a bien une certaine unité du côté du sujet existant. Mais ce sujet existant, parce qu'il est dans le mouvement, est perpétuellement changeant. Et donc lui-même est dans la relativité à cause du mouvement. Et ça peut aller même très loin, puisque nous savons qu'il peut y avoir un mouvement de génération, qui fait que le sujet est radicalement lui-même dans le mouvement. Donc il n'a pas d'unité. Pas d'unité dans le monde physique. Très ennuyeux, ça. Pas d'unité dans le monde physique, c'est vrai. Il n'y a pas d'unité dans le monde physique. Dans le monde physique, je suis en phase d'une relativité constante. On pourra se demander si dans un jugement de sagesse par rapport au monde physique, je ne dois pas affirmer une unité, mais pas au niveau physique. Aristote, lui, avait dit qu'il y avait une unité dans le monde physique grâce au mouvement circulaire. C'est grâce au mouvement circulaire qu'il retrouvait l'unité, c'est-à-dire une uniformité. Alors, toute la différence entre l'uniformité et l'un, c'est tout à fait la même chose. Le problème de l'un s'oppose au multiple, le problème de l'uniformité, un mouvement uniforme. Le mouvement circulaire est un mouvement uniforme. C'est donc à l'intérieur même du mouvement, on retrouve une unité, mais une unité qui est très particulière. L'uniformité du mouvement circulaire. Vous voyez, c'est comme une espèce de participation de l'un. Mais si ce mouvement circulaire n'existe pas, ce que nous devons dire, alors le mouvement uniforme n'existe plus. Et donc je retombe dans une relativité absolue. Le monde physique m'apparaît comme une relativité absolue, pas d'un, pas d'unité. Et c'est très intéressant de voir ça, parce que ça nous aide à mieux comprendre certains problèmes actuels, du reste. Est-ce qu'il y a une unité dans le monde physique? Qu'est-ce que c'est que l'unité dans le monde physique? Alors je pourrais dire que d'une certaine manière, il y a une unité dans le monde physique à propos de la lumière. Que la lumière, qui est elle aussi dans le mouvement, cependant, en raison de sa qualité, va impliquer une certaine unité. Cette unité qualitative au-delà. C'est une manière de retrouver l'unité dans le monde physique, au-delà de l'uniformité du mouvement circulaire. Si la lumière fait une certaine unité dans le monde physique, elle fait une certaine unité, je vous l'ai déjà dit. C'est là où saint Thomas et Teilhard sont d'accord. Donc il doit y avoir quelque chose de vrai. Il y a une unité profonde dans le monde physique qui est la lumière. La qualité. Alors voyez, je quitte le mouvement pour voir le point de vue de la qualité. Physiquement, au niveau de la physique moderne, la lumière est vue dans le mouvement, pas vue autrement. Mais au niveau philosophie de la nature, c'est vu au niveau qualitatif. Ça, c'est très intéressant parce que ce serait peut-être un des biais par lequel on pourrait voir la différence entre la philosophie de la nature et la physique. Oui, c'est attaquer la lumière. C'est peut-être là où, en effet, on trouverait un lien de diversité de connaissances. Pour la philosophie de la nature, l'unité du monde physique, c'est la lumière. Je crois qu'il n'y en a pas d'autre. Et c'est l'au-delà du mouvement. Et c'est le dépassement du mouvement, parce que je découvre la qualité. Alors ça, c'est aussi très important, parce que ça nous fait comprendre que tout de suite, dans le monde physique, la qualité, l'unité est liée à la qualité. Ce qu'Aristote avait bien compris quand il disait l'uniformité. Il voulait trouver une qualité dans le mouvement. Alors il trouvait le mouvement circulaire. Et le mouvement circulaire était le mouvement le plus parfait. Quand il étudie le mouvement circulaire, il dit que c'est le mouvement le plus parfait. Et il est le plus parfait et il est uniforme. Et si je ne puis pas accepter ça, je suis obligé de retrouver l'unité du monde physique au-delà du mouvement dans la qualité et la lumière. Le dépassement du mouvement me permet de découvrir l'unité. Donc, l'unité émerge en premier lieu par la qualité. Ça, je peux le dire tout de suite, hein, on va voir après. Hein. Mais la première émergence de l'unité, ce n'est pas du côté de l'existant. Ah, c'est curieux. On est devant des choses curieuses quand on essaie de regarder. J'ai eu un premier regard, très bien. Maintenant, on entre un tout petit peu plus dans le problème. Étudions l'unité. Alors, cette chose très curieuse, c'est que l'existant, le sujet existant, j'ai dit, pouvait être entièrement relatif. Puisqu'il est en mouvement. Et il peut être en mouvement jusque dans la génération et la corruption. Donc, l'unité n'est pas au niveau de l'existant. L'unité n'est pas liée à l'essai dans le monde physique. L'unité n'est pas liée en premier lieu à l'essai. Le monde physique a une existence trop fragile pour posséder une unité. Le monde physique a une existence trop fragile, une existence trop liée à la matière. Parce que son existence est dans la matière. Il ne peut pas exister en dehors de la matière, le monde physique. C'est propre du monde physique. Et en raison même de la matière, il tombe dans la multiplicité et la relativité. Donc du côté de l'existence, il n'y a pas d'unité. C'est la qualité, c'est la forme. Ah, ça c'est très important à voir, je crois. Parce que ça fait comprendre que si je mets l'unité avant tout, vous voyez bien comment je peux arriver à mettre la forme avant l'acte d'être. Dans le monde physique, c'est ce qui se passe. Hein. Je le vois. Réfléchissez là-dessus, parce que c'est important. La multiplicité au niveau de l'existant et l'unité qui apparaît au niveau de la forme, au niveau de la qualité. Dans le monde physique, c'est net. Alors vous voyez que le problème de l'un et du multiple dans le monde physique n'est pas du tout parallèle au problème de l'être. La multiplicité est au niveau de l'existence et la forme, la victoire de la forme dans la lumière. Alors, prenons maintenant le problème des vivants. Je vous ai dit qu'on retrouve le problème de l'un et du multiple dans le problème des vivants. Dans le problème des vivants, si je suis au niveau de la vie végétative, c'est exactement la même chose que dans le monde physique. Pas de changement. Parce que la végétative implique la corruption et la naissance. Et donc, c'est une relativité jusque dans le vivant. Vous voyez ? Jusque dans le vivant, il y a une relativité. Le problème de les êtres au niveau biologique de la vie, je suis aussi dans une relativité. Alors, ce ne sera que chez le vivant spirituel où il y a une émergence au-delà du mouvement qui est avec l'esprit. C'est l'esprit qui sauve l'être, qui sauve l'unité de l'être. Quelle est votre unité de votre être? Ce n'est pas votre corps. Non, ben c'est pas votre corps, parce qu'il change tout le temps, votre corps. Il se modifie tout le temps. Donc c'est pas votre corps. La philosophie du corps ne me donne pas l'unité, elle me met en face du mouvement, de la relativité, de l'existence. Il faut arriver à l'esprit, donc un dépassement de la vie, par l'esprit, pour comprendre qu'il y a en moi quelque chose qui est au-delà de la relativité absolue du mouvement, qui est mon âme spirituelle. Mon âme spirituelle est au-delà et elle maintient en moi une unité. Et une fois que j'ai compris que dans le monde physique, c'est la forme, la qualité qui donne l'unité, donc la lumière, je vois que dans le monde biologique, dans la mesure où le monde du vivant reste au niveau biologique et donc reste lié au monde physique, je retrouve la même chose. Le vivant n'apporte pas une source d'unité au-delà de la lumière. Curieux. Posez-vous la question. Hein. Parce que vous n'êtes jamais posé la question. Alors posez-vous la question. C'est intéressant de savoir. Si le monde des vivants apporte une nouvelle unité, je ne crois pas. Si vous le trouvez, vous me le direz. Hein, la semaine prochaine. Si le vivant apporte une nouvelle unité, vous voyez, si l'éléphant apporte une nouvelle unité au niveau proprement philosophique. Je dis non, c'est l'esprit. C'est l'esprit qui apporte une nouvelle unité. Alors là, oui, le vivant spirituel, il est un dans son existence. Il est un dans son existence. Alors que le vivant biologique n'est pas un dans son existence. Il est relatif, comme tout le monde physique. Il a le seul privilège, c'est de pouvoir se reposer. Alors vous allez dire, le repos, c'est son unité. Oui, mais c'est un repos tellement relatif à son moi. Il se repose pour pouvoir gambader après. Donc son repos est relatif à son mouvement. C'est vrai, il est relatif. Il se repose pour dormir, parce qu'il dort. Alors vous retrouvez le fait de dormir. Hein. Il se repose pour dormir, mais en vue de se mouvoir.
Et le simovere du vivant demeure dans la multiplicité. Il n'y a pas d'unité dans le simovere du vivant au niveau biologique. Et au niveau animal aussi. Hein. Ce n'est qu'au niveau de l'esprit. Donc au niveau de l'esprit apparaît quelque chose de tout à fait particulier, une nouvelle unité, une nouvelle forme d'unité. Et cette forme d'unité, c'est justement lié à l'esprit. Alors c'est ça qu'on va essayer de comprendre. Parce qu'alors ce serait intéressant de voir que cette unité de l'esprit est analogue à la lumière. Ça fait peut-être comprendre l'analogie de la lumière, vous voyez ? Ça fait comprendre des choses importantes. C'est curieux, c'est l'un qui me fait entrer dans le problème. On n'a pas vu le problème de la lumière jusque maintenant. Hein. Mais le problème de l'unité nécessairement me met en face du problème de la lumière. C'est pas le problème de la substance, c'est pas le problème de l'art, c'est le problème de l'art. Curieux ça. Il se demandait pourquoi, parce qu'on cherche qu'est-ce que c'est que l'un. Il faut essayer de voir que de fait, le problème de la lumière me met en face ce problème de l'unité. Alors, je creuse un peu. Je dis donc, c'est le problème de l'esprit. Si c'est le problème de l'esprit l'un, donc c'est la métaphysique. Hein. Alors là, je trouve, en métaphysique, oui, ça nettoie énormément. Hein. Je vois qu'au niveau biologique, au niveau physique, un seul problème de l'unité, la qualité, la lumière. La vie n'apporte rien de plus. La vie au niveau biologique et au niveau animal. Je suis dans la multiplicité. La générale corruption amène ça. La corruption fait que le problème de la multiplicité est premier, que voulez-vous. Dès qu'on est un être corruptible, on est un être multiple. Vous portez en vous une multiplicité à cause de votre corruptibilité. Tu es poussière et tu retourneras en poussière. Ben, c'est la multiplicité, c'est évident. Parce que vous ne voyez pas l'unité, là. Et ça montre bien que de fait, seul l'esprit est victorieux de la multiplicité. Seul l'esprit est victorieux de la multiplicité. Et que seul l'esprit va montrer une unité dans l'ordre substantiel. Puisque dans le monde physique, je ne l'ai pas, dans le monde animal, je ne l'ai pas, je l'ai dans le monde proprement de l'esprit. Alors là, je trouve une unité. Alors, je vais regarder, puisque c'est l'esprit, c'est donc la métaphysique, c'est plus la philosophie du vivant, c'est la métaphysique. La métaphysique me donne le domaine de l'esprit et de l'être. Et alors, je retombe sur la métaphysique, en effet, il y a l'ousia. L'ousia, qui pour moi est mon âme spirituelle, mais en métaphysique, je la regarde comme l'ousia, comme la substance. Mais c'est mon âme spirituelle. Cette âme spirituelle, en tant que principe, a une unité. Ah oui. Mais est-ce que c'est ça la véritable unité? Attention. Parce que je recherche qu'est-ce que c'est que l'un. J'ai dit tout à l'heure, oui, toute substance implique l'unité. Mais la nature est aussi un principe. Et je viens de dire que dans le monde physique, il n'y a pas d'unité. Alors il faut faire grande attention ici. Est-ce que le problème de l'un est-il au niveau des principes ou au niveau de l'existant? Ah ben, là, on entre dans le problème de l'un du multiple. Hein. Quand j'ai dit l'apanage du principe est d'être un, est-ce que c'est le problème de l'un au niveau métaphysique? Ou est-ce que le problème de l'un au niveau métaphysique, c'est au niveau de la manière dont le principe existe? C'est au niveau du pose, autrement dit. Oui, posez-vous là encore le problème. Hein. Il faut se poser ces problèmes. On est tellement habitué de regarder le problème de l'un et du multiple d'une façon tellement extérieure qu'on ne voit pas toute la complexité. On ne voit pas toute la complexité. Ceux qui ont lu attentivement dans la Somme théologique de saint Thomas le problème de l'un par rapport à Dieu ont vu que c'était d'une confusion remarquable. À première vue. Et c'est vrai, quand vous regardez ça à première vue, vous voyez une confusion remarquable, parce que vous voyez que l'un a des sens différents. Saint Thomas n'avertit pas, il passe de l'un à l'autre. C'est très curieux, ça. C'est un des lieux les plus étonnants. Quand on lit attentivement le problème « Dieu est-il un ?», on s'aperçoit, est-ce que c'est l'unicité de Dieu? Est-ce que c'est là la simplicité de Dieu? C'est pas la simplicité, puisqu'il a déjà traité de la simplicité. C'est le problème de l'un et du multi par rapport à Dieu. On s'aperçoit que l'un a des significations différentes. Alors, c'est ça que je voudrais voir ici avec vous. Y a-t-il un problème du tiesti de l'un? Ou y a-t-il simplement un problème du pos? Est-ce que pour l'un, je peux poser le problème du tiesti? Ou est-ce que l'un est nécessairement au niveau du pos? Tout à l'heure, la réflexion que j'ai faite en philosophie de la nature, c'est au niveau du pos. C'est pas du tout au niveau du tiesti. Quand je dis que tout principe est un, c'est juste de dire ça, c'est très vrai, tout principe est un. Mais est-ce que j'ajoute quelque chose en disant que ce principe est un? Je fais simplement dire que le principe est un. Il est par nature comme principe. J'ajoute rien. J'ajoute rien, tandis que quand je dis Pierre est un, j'ajoute quelque chose. Je dis au niveau du pose. Alors, posez-vous la question. Quand je me pose au point de vue métaphysique, est-ce que le problème de l'un est au niveau du TST ou au niveau du pose? La découverte des principes, c'est toujours au niveau du TST. Mais quand il ne s'agit plus d'un principe, puisque l'un n'est pas principe, je le saisis directement. Je le saisis immédiatement. Quand il ne s'agit plus d'un principe, quand il s'agit d'une réalité qui, de fait, m'apparaît comme une propriété acolyte, quelque chose qui accompagne. Aristote a dit ça, donc j'ai le droit de m'en servir. Après, on essaiera de comprendre directement. J'ai le droit de m'en servir. Est-ce que quand je dis acolyte, quand je dis propriété, est-ce que c'est un problème du tiesti? Non. Une propriété doit se saisir au niveau du pos. C'est une manière particulière d'être, on est un. C'est une manière particulière d'être, on est multiple. C'est pas un problème du tiesti, là. Cependant, je peux me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'un? Alors ça, oui, j'ai tout à fait le droit de me poser la question, qu'est-ce que c'est que l'un? Mais ne confondons pas les deux. Comprenons que l'un, quand je me pose la question qu'est-ce que c'est que l'un, je dis l'un implique la non-division. C'est négatif. Implique la non-division. L'un est non-divisé. Si je veux aller plus loin pour comprendre ce que c'est que l'un, je regarde ce qui est affecté par l'un. Et je retombe dans le problème du pauvre. Pas si vous comprenez suffisamment. Parce que c'est difficile, hein? C'est pas commode. Première vue, le problème de la multiple, c'est, ça paraît très simple. Mais dès qu'on le regarde un tout petit peu attentivement, on s'aperçoit que c'est très complexe. Quand je l'ai regardé au niveau du monde physique, je l'ai regardé au niveau du pose. Et j'ai dit au niveau du pose, il n'y a que la lumière qui m'apparaît simple. Tout le reste est composé. Quand je reprends au point de vue métaphysique, je reprends l'ousia, je prends l'âme spirituelle, et je dis qu'elle est une comme principe. Oui, c'est vrai, c'est pas suffisant. Je dois regarder la manière dont l'ousia humaine existe, le pose de l'ousia humaine. Ah, la substance subsiste dans son unité. Oui, je retrouve tout de suite le problème de la subsistance. La substance, le pose de la substance. Et si je vais plus loin, cette substance, elle existe individuellement. Elle est individuée. C'est encore un problème de l'unité. Mais c'est le pose. C'est le comment. C'est le comment de la substance. Comment la substance existe-t-elle? Eh bien, cette forme spirituelle, cette âme spirituelle, cette substance, elle subsiste dans l'unité. Au-delà de la complexité, au-delà du mouvement. Alors, il faudra bien voir tout de suite ici, c'est que mon âme spirituelle est liée au corps, est liée au monde physique. Étant liée au corps et au monde physique, elle est liée à la corruptibilité.
mais en elle-même, elle a quelque chose d'incorruptible. Alors vous voyez tout de suite comment, dans mon âme spirituelle, ma substance, il y a un double problème. Il y a une multiplicité à cause du corps et il y a une simplicité à cause du principe. J'essaierai de reprendre ça rapidement avec vos questions.
Père, mais quand vous dites que l'âme au niveau du vivant n'apporte pas de nouvelle unité, c'est parce qu'on regarde le vivant dans un regard métaphysique?
Oui. Non, non. Mais c'est la multiplicité, c'est toujours le devenir.
Oui, mais y a quand
dans
même
le devenir, il n'y a pas d'unité.
Oui, mais il n'y a pas qu'un devenir, il y a l'âme.
La réalité.
L'individu en lui-même, il a quand même...
Il a une certaine unité, mais une unité de corruptibilité.
Je sais pas, dans ses opérations vitales, il fait quand même l'unité de ses opérations vitales.
Oui, il a une unité, mais une unité toute relative. C'est ça que je veux dire. Pas une unité substantielle.
Parce que c'est un regard métaphysique, quoi.
Ben oui, forcément, c'est un regard métaphysique ce que nous faisons. Ah, c'est pour vous, c'est très bien. Oui, c'est pour les deux.
Super.
Oui.
Je pense que ça...